Résonance, le rendez-vous des expériences qui nous embarque ailleurs sur Tropic FM 90.0. Dans le cadre de notre rubrique « Aujourd'hui pour demain », nous vous proposons une série d'entretiens avec des compositeurs d'aujourd'hui. Des entretiens au cours desquels nous vous convions, chers auditeurs et chères auditrices, à pénétrer dans l'univers d'hommes et de femmes qui ont choisi de transmettre leurs émotions, leurs regards, à travers la musique et l'écriture musicale. Lors de ces échanges, nous découvrons, au fil de ces conversations, leurs intentions et leurs conceptions artistiques. Ils évoquent ce que tout cela signifie pour eux ou pour elles, des conséquences sur leur vie et sur leur quête artistique. Bonjour, l'invité de ce jour est le compositeur Carl Negelen. Nous sommes très heureux d'accueillir à ce micro Carl Negelen, un jeune compositeur originaire de l'Ain, un musicien qui ressent très tôt l'envie profonde d'organiser la matière sonore, de jouer avec les sons, les couleurs. C'est un rêve à l'époque, aujourd'hui c'est une réalité. Comment ce passage est effectué finalement ?
Le passage donc à l'écriture.
Finalement de cette envie de... Voilà, déjà aussi, je pense, dans votre pratique musicale, tout petit, puis un peu plus adolescent, voilà, d'être dans plein de confrontations, mais à un moment donné, l'envie peut-être que ça devienne quelque chose d'important et au quotidien.
Oui, ça s'est passé très naturellement, en fait. Quand j'ai fait mes études, donc petit, donc moi je suis né dans un petit village, donc j'ai plutôt fait des études... dans une petite école de musique, et c'est vrai que j'ai pas fait très tôt le lien entre ce que je pouvais apprendre dans cette école de musique, le saxophone classique notamment, et puis l'écriture. C'est assez tard que c'est venu, enfin disons que j'avais la passion pour la musique en général, l'écoute de la musique, mais je crois que c'est assez classique. Je me suis retrouvé avec une guitare adolescent, et puis j'ai pu être en contact avec le plaisir de faire de la musique, cette notion de plaisir, je crois que
ça, c'était aussi très important.
C'est important. Et c'est seulement après que j'ai pu me rendre compte que ce que j'avais pu apprendre comme technique, comme bagage, etc., au saxophone notamment, ça pouvait me servir directement à faire la musique qui me plaisait, à organiser les sons.
Oui, parce que du coup, le saxophone, la pratique de la guitare rock, vous êtes ouvert aussi à de la pratique vocale. À un moment donné, il y a aussi l'occasion de découvrir aussi l'improvisation, d'écrire des thèmes, d'arranger aussi pour des ensembles. Et finalement, ce qui est important, c'est que vous avez trouvé que tout ça, c'était une matière. Toutes ces expériences, finalement, ont permis de se dire, tiens, oui, je peux peut-être me lancer dans tout cet univers.
Mais c'est vrai qu'après, une fois que la flamme est lancée, peu importe quelle musique on fait, c'est une histoire de rencontre, etc. Mais c'est vrai qu'il a fallu cette première envie très forte, puis... Ce qui m'est un petit peu particulier peut-être, c'est que très vite j'ai eu envie, même à l'instrument, de construire des formes, voilà. Donc après, c'est petit à petit, c'est plus l'expérience de la composition qui a primé, et voilà un petit peu où j'en suis. Mais c'est vrai que c'est un cheminement très naturel. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ça y est, là j'ai envie d'être compositeur, ou j'ai envie de faire de la musique, non, ça s'est passé.
Les choses se sont enchaînées au travers de toutes ces multiples expériences et ces rencontres aussi également. À un moment donné, vous avez évoqué vous décrivez un petit peu comment vous envisagez la musique, et vous dites elle n'est pas une affaire d'élite, mais bien plutôt un domaine où l'ouverture et l'écoute sont les premiers fondements.
J'ai dit ça. D'accord. effectivement, enfin, pas une affaire d'élite, en tout cas, peut-être aussi que c'est une question très très générale sur la manière dont on envisage la musique dans notre société. C'est-à-dire qu'elle est peut-être pas toujours une partie prenante de notre quotidien, mais elle pourrait, en tout cas, toutes les expériences que j'ai pu vivre, notamment avec Résonance Contemporaine, dans des milieux amateurs ou avec des chœurs amateurs par exemple, des personnes qui ont un métier, et puis le soir simplement ils se retrouvent et puis ils se détendent en chantant, etc. De voir qu'avec tout type de public on peut arriver à une forme musicale intéressante, et puis c'est peut-être d'ailleurs pas la seule, le seul objectif, c'est aussi de partager des choses ensemble. Voilà, donc après ça n'empêche pas qu'on peut pousser la question de l'écriture, de la mise en forme, de la musique très loin, mais c'est peut-être aussi d'affirmer que la musique peut jouer un rôle quotidiennement aujourd'hui. Enfin, ça renvoie à plein de questions. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui la musique enregistrée se développe beaucoup, donc c'est la pratique instrumentale peut-être un peu moins. J'en sais rien, c'est une question en tout cas.
C'est une question qui peut se poser aujourd'hui.
Donc,
oui.
Voilà, cette expérience du contact avec la musique, du chant, on sort le violon, on chante, etc., c'est quelque chose qui est peut-être moins présent dans la société aujourd'hui, qu'on trouve d'ailleurs assez, peut-être plus facilement
dans d'autres cultures.
En tout cas, moi, quand je suis allé en Indonésie, par exemple, j'ai pu constater que quand il revenait des champs, des rizières, ou je sais pas quoi, c'était quelque chose de très naturel. On s'installe, on joue tous ensemble, et c'est une pratique collective qui a sa place au sein de la société. Voilà. Puis sans se poser de questions esthétiques, ça c'est encore une autre question. Donc le but n'étant pas forcément de faire un concert, ce qui était une notion étrangère à cette culture avant que le tourisme s'implante, etc. Mais c'était avant tout une pratique collective qui permettait de faire du lien social, etc. Donc ça renvoie à plein de questions. Donc, c'est peut-être ça aussi que je voulais souligner dans l'idée que c'est pas une affaire d'élite, c'est que ça a un rôle social. Important.
Quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors peut-être pour justement permettre à nos auditeurs de découvrir votre univers, nous allons leur proposer de découvrir une première pièce, New York City. Les fondements un petit peu qui vous ont conduit à écrire cette œuvre. C'est alors, une œuvre déjà pour...
Alors New York City, Annie Gaxet, c'est pour 7 instrumentistes, dont une percussion solo. Voilà, c'est difficile de parler de cette pièce parce que en fait, c'est un petit peu un condensé d'obsessions, de dada que je peux avoir, qui sont un petit peu mêlées.
Mêlées, ouais. Thank you. Carl Negelen, avec l'œuvre que nous venons d'entendre, sans parler de chapelle musicale, mais on pourrait déjà vous inscrire dans ce qu'on peut appeler couramment, en tout cas, la musique contemporaine. Et à un moment donné, vous l'avez évoqué, en tout cas, on sait que ce n'est pas toujours facile vis-à-vis d'un public, cette forme musicale, en tout cas. Et vous soulignez que peut-être... qu'elle souffre, cette forme-là, peut-être plus que tout autre, d'une impopularité qui n'est pas tant due à son contenu qu'à la manière dont elle est transmise. Comment la transmission de celle-ci devrait-elle être envisagée, proposée, en tout cas, à votre avis?
Ça envoie pas mal de questions, tout ça.
Ça rejoint déjà un petit peu ce qu'on disait, vous disiez déjà un peu tout à l'heure. On sent bien que... quand on évoquait votre pratique antérieure, les moments de retrouver justement avec un public amateur, de ces circulations, que là aussi il y a des histoires de transmission qui sont en jeu.
Il y a souvent l'idée derrière la notion de musique contemporaine que c'est une musique qui nécessite un grand bagage culturel, solfégique, etc. Donc à mon avis c'est un premier cliché qui me semble faux. Je peux prendre un exemple. Donc, quand j'étais en résidence donc dans l'école de musique de Villars-les-Dombes, grâce à Résonance Contemporaine. Donc j'ai travaillé avec des violonistes notamment, qui faisaient la méthode Suzuki. Donc bon, ils avaient entre 2 et 4 ans de pratique instrumentale par exemple. Et c'est assez intéressant parce que dans leur pratique quotidienne des gammes, etc., il y a quand même quelque chose d'assez difficile, d'assez un apprentissage qui n'est pas toujours satisfaisant à la
satisfaisant
première
écoute,
qui est un peu laborieux. Et c'était intéressant parce que mon expérience avec ces enfants, ça a été de leur faire essayer d'autres choses sur leur instrument, des glissés, des balayages harmoniques. Alors c'est des mots savants, mais en fait c'est très simple, c'est juste simplement d'effleurer des cordes, simplement d'essayer de chercher des nouvelles matières sonores. Et ça a été quelque chose de très naturel et de très une découverte simplement d'une autre manière de faire sonner l'instrument, qui leur a été au contraire très... je sais pas comment.
Très évidente.
Très évidente, oui, voilà. Alors que le contact finalement avec la musique classique, entre guillemets, était plus complexe.
Plus complexe.
D'abord. Donc en fait, on était dans la situation inverse où finalement, pour ces enfants, créer de la musique, de chercher ces sons, etc., c'était quelque chose d'assez simple à amener. Et. Enfin, je crois assez content de cette expérience-là. Donc tout ça pour dire que problème de transmission, oui, parce que alors je sais pas, j'ai pas toutes les solutions, mais il y a pas mal de solutions en tout cas pour essayer de faire pratiquer cette musique à toute personne de tout niveau, etc. Et je dirais même qu'au contraire, par exemple, le fait de ne pas savoir lire la musique, de ne pas savoir l'écrire, une certaine, en tout cas un certain pan de la musique contemporaine permet ça. C'est-à-dire on peut passer par des schémas, passer par des...
Ça veut dire qu'il y a moins d'a priori, moins de préjugés, peut-être, si on entre de cette manière-là?
Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas du tout une musique accessible, au contraire. C'est-à-dire que, avec un faible niveau de technicité, on peut arriver à des résultats, à mon avis, intéressants qu'on ne peut pas avoir, par exemple, dans, ben, je sais pas si on veut jouer un quatuor de Mozart. Ben voilà, il y a des questions de justesse, il y a des questions d'apprentissage de la lecture, etc. Ça pose d'autres questions. Donc tout
Donc, du
ça, c'est
coup,
très complémentaire en réalité.
le travail de création est, et gardons encore ces termes-là, de musique contemporaine plus généraliste en tout cas, pour chacun, pourrait être aussi un mode d'entrée pertinent ou judicieux finalement pour la découverte, la mise en œuvre d'une pratique instrumentale, de rentrer en musique ou déjà d'avoir un certain plaisir avec, vous évoquiez le mot matière aussi au début de cet entretien, ce serait peut-être un mode d'entrée beaucoup plus à utiliser qu'il ne l'est aujourd'hui.
Oui, ça j'en suis persuadé. Mais... Et qui offre un éclairage aussi sur des musiques, d'autres musiques.
La pièce que nous venons d'entendre, c'est une œuvre récente qui a été créée au festival Musique Action à Vandœuvre-lès-Nancy, et là qui mettait en présence six voix de femmes, six voix solistes et un quatuor. Un quatuor un petit peu plus particulier dans sa manière justement de concevoir l'idée du quatuor. Il s'agit là du quatuor pli. Comment un petit peu l'œuvre que nous venons d'entendre, elle s'est agencée, elle s'était. On parlait tout à l'heure de rencontre avec la matière. On a l'impression que là aussi, qu'il y a une manière pour les interprètes, en tout cas, de jouer aussi avec cette matière. Comment est conçue cette œuvre?
Donc pour cette œuvre, c'est vrai que c'était un projet un petit peu particulier, puisque donc l'ensemble des six voix solistes et le quatuor pli s'étaient réunis pour ce projet-là. Et le quatuor pli a pour particularité d'être composé en tout cas de quatre personnes qui ont des parcours très différents, et notamment l'altiste, donc Philippe, par
Philippe
exemple,
Berger.
Philippe Berger, qui n'a pas de pratique solfégique, donc tout simplement qui lit peu, voire même pas la musique.
Donc sur l'oralité,
en tout cas, telle qu'écrite par le solfège traditionnel. Voilà, donc ça posait un petit peu une contrainte de départ qui était très nourrissante, enfin, très intéressante, puisque aussi parmi les six voix solistes, il y a aussi des parcours très différents, mais quand même avec des personnes qui ont l'habitude de déchiffrer de la musique contemporaine, etc. Donc
du coup, il a fallu concevoir quelque chose qui allie toutes ces, voilà, toutes ces potentialités.
J'ai essayé, en tout cas, d'imaginer une forme qui... Bon, parce qu'il s'agissait quand même d'écrire une pièce, il ne s'agissait pas de faire une improvisation, sinon, ben voilà, j'étais là pour rien. Donc d'essayer de concevoir une pièce qui laisse un certain degré de liberté, ou en tout cas qui profite des potentialités qui sont là.
C'est vrai que c'était le propos, c'est-à-dire musique écrite, musique improvisée, en tout cas. On peut dire que le projet dans lequel s'inscrivait aussi cette collaboration avait cet intitulé, quoi.
Voilà, donc il y avait cet aspect-là. Donc par exemple, dans l'extrait qui a été diffusé, là, à un moment, on entend des masses qui sont écrites, donc avec des batutos, de cordes, etc., des quais, des chanteuses, enfin, plein d'interjections. Et puis à un certain moment, quand la musique se développe, il y a une certaine énergie qui commence à se dégager de tout ça, et là il y a une liberté qui est laissée, enfin c'est même plus qu'une liberté, il y a une partie improvisée, et puis on revient à un moment sur quelque chose d'écrit. Donc voilà, donc, c'était essayer de mélanger ces deux aspects, écriture et puis improvisation. Et il y avait un autre aspect important, c'est que d'essayer de trouver un mode d'écriture qui ne fasse pas appelle toujours à la notation solfégique. Et alors ça, c'était aussi très intéressant.
C'est intéressant.
Ça rejoint encore une fois ce dont on parlait tout à l'heure sur la notion
de musique transmission, contemporaine,
musique élitiste, pas du tout, puisque justement, l'interface, la partition peut être conçue de manière très différente pour permettre à des personnes qui n'ont pas une pratique du solfège de la jouer, cette musique. Donc c'est quand même... c'est pas rien.
Dans votre parcours, aussi, il y a eu des intérêts, on l'a évoqué un petit peu au début de cet entretien, des questionnements aussi, qui se sont portés sur les musiques orientales, japonaises, balinaises. Vous évoquiez déjà tout à l'heure, vous avez séjourné même en Indonésie. Et pourquoi cette attirance vers ces cultures, ces traditions musicales? Qu'est-ce qui a fait que, du coup, il y a quelque chose là qui vous a interpellé?
Bon, il y a des choses du domaine de l'indicible. Enfin, voilà, on peut être touché par la musique, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup. Peut-être une forme d'altérité, d'étrangeté qui est saisissante, comme ça, par exemple dans la musique japonaise. Voilà, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Mais encore une fois, ça pose pas mal de questions. Par exemple, ce rapport à l'oralité que peuvent avoir la plupart des traditions extra-européennes. Enfin, contrairement à nous qui avons poussé, disons,
la notion d'écriture
très loin, ça veut pas dire qu'il y a pas d'autre manière, il y a pas d'autre tradition de transmission de la musique par l'écrit dans d'autres traditions extra-européennes. Bien sûr que si. Mais souvent, enfin, par exemple dans la musique iranienne, dans la musique japonaise, dans ce que je connais de la musique indienne en tout cas, la notation est souvent simplement un moyen mnémotechnique, et les choses se passent un petit peu différemment, c'est-à-dire que la manière de mémoriser la musique, etc., est importante, et du coup ça pose encore la question de enfin, on obtient une espèce de souplesse, par exemple dans la musique iranienne, parce que celui qui va jouer du zarb connaît, je sais pas, par exemple des centaines de cellules,
ouais, c'est ça aussi.
Quand il joue, il les connaît par cœur et il les investit un petit peu sur le moment de manière très différente.
En fonction des contextes.
En fonction du contexte, en fonction du moment, en fonction de ce que l'autre interprète lui donne. Donc il y a une énorme souplesse qui fait que la musique est très très vivante. Enfin, en tout cas,
j'imagine que ce voyage en Indonésie a dû être marquant à plus d'un degré. Ouais. Vous avez pu aussi approcher ces formes-là, voire y participer musicalement?
Y participer, non. Enfin, bon, voilà, j'ai pris simplement 2-3 cours mais pour voir un peu comment c'était fait. Mais là, c'est, par rapport à la musique indonésienne, je crois que c'est plus l'organisation sonore qui est très bon, intéressante.
L'aspect collectif peut-être aussi de ce type de musique.
L'aspect collectif et bon, je vais pas. Simplement pour expliquer, donc dans la musique indonésienne, les instruments graves ont une rythmicité très lente et les instruments aigus très rapides.
Très rapide.
Donc on a une espèce comme ça de pyramide d'instruments du plus aigu au plus grave. Et il y a une organisation du sonore, en tout cas dans certaines musiques balinaises, qui est très intéressante parce qu'on rejoint aussi des considérations autres que purement musicales, ce qui est aussi un des aspects intéressants des musiques européennes, c'est que ça renvoie aussi à une philosophie, puisque le gong contient tous les sons. Enfin voilà, je suis pas assez connaisseur pour entrer dans tous les détails de cette musique-là, mais c'est assez fascinant de voir la pertinence d'une musique sur beaucoup d'égards, c'est-à-dire...
Est-ce que c'est fascinant, justement, au point que si on écoute certaines de vos œuvres, je pense à Intime, je pense à même peut-être aussi déjà à Matière en mouvement que nous venons de découvrir, le mot influence peut-être est peut-être trop fort, mais est-ce que justement toute cette vision, ce rapport, ces questionnements justement par rapport à l'écriture, au fonctionnement de la musique, c'est quelque chose qui façonne, si je peux employer ce terme, aujourd'hui, votre manière d'élaborer l'architecture musicale et sonore qui vous parle et qui marque votre singularité ?
Donc, oui, certainement. En tout cas, ce qui me paraît être une de mes préoccupations majeures, c'est justement d'essayer de retrouver une souplesse dans la matière musicale tout en écrivant la musique. Donc voilà, donc, cette espèce de dialectique-là est très bien posée par la musique extra-européenne, je pense.
Et comment l'idée vient finalement ? Ça, c'est peut-être aussi quelque chose que nos auditeurs, auditrices peuvent se poser régulièrement. Quand on entend parler un compositeur, on se dit, tiens, comment l'idée elle vient ? Comment il la met en forme ? Comment ça germe ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est des processus assez mystérieux, je pense. Personnellement, je sais qu'il me vient des trucs souvent quand je marche, quand je suis en mouvement, je sais pas pourquoi, parce que voilà. Mais c'est très délicat de dire, tous les processus qui sont en jeu, la musique qu'on écoute, les gens qu'on rencontre, bon, c'est très mystérieux tout ça. Thank you.
Vous avez effectué vos études au CNSM de Lyon, et d'ailleurs, tout à l'heure, la première œuvre que nous avons entendue, NYC, était interprétée justement lors du passage de votre prix de composition par des élèves du CNSM de Lyon. Et j'imagine que durant vos études de composition, vous avez pu rencontrer, travailler, échanger avec différents compositeurs, qu'ils soient français ou étranger. Vous avez même, je crois, à un certain moment donné, effectué dans le cadre de ces études des déplacements à l'étranger, notamment à Hambourg. J'imagine que voilà, toutes ces rencontres ont été riches. Elles ont été importantes aussi, ces rencontres, quand on est, sont-elles importantes justement quand on est dans un parcours comme ça, un temps concentré justement d'études au CNSM. Ces rencontres sont importantes dans le cadre, dans ce cadre-là.
Oui, bien sûr. Donc, pas mal de rencontres qui importantes. C'est difficile. Enfin, il y en a eu tellement, mais bon, récemment, par exemple, je suis allé à Berlin.
Oui,
Et
là, c'est là où vous avez rencontré
voilà où
Apervis.
j'ai rencontré Apervis. Donc, ça c'était vraiment ouais, quelque chose de enfin, très formateur, très intéressant. Surtout que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout. L'idée de transmettre quelque chose, enfin, il n'a pas du tout envie d'être prof, je crois que c'est vraiment quelque chose qui ne sait
Qui
pas
pour lui
faire,
est
qu'il ne
clair
veut pas faire.
et qu'il ne veut pas faire.
Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était de le voir travailler avec les musiciens, son rapport avec les interprètes, enfin les musiciens. Ça m'a beaucoup appris, enfin, intéressé en tout cas. Par exemple, de voir comment un interprète peut donner pour une musique quelle qu'elle soit, lorsque il sent qu'il est alors déjà en confiance, et puis surtout que de lui dépend beaucoup de choses, quasiment toute la musique, et qu'on lui fait confiance, et que de sa personnalité va naître quelque chose qui n'est pas prévu en tout cas par le compositeur. Et donc Apergis, il avait ça, c'est-à-dire cette manière de, enfin en tout cas dans ce workshop là qu'on avait fait, de laisser aux musiciens la possibilité de s'exprimer, au contraire, c'est ce dont il avait envie. Donc plus ils étaient eux-mêmes, et plus la musique fonctionnait. Donc forcément, ça crée un lien avec l'interprète qui est très fort, et on peut demander beaucoup du coup. Et quand on peut demander beaucoup à un interprète, la musique, elle sonne beaucoup mieux.
Sonne beaucoup mieux aussi.
Donc voilà, c'était bon, par exemple, hein, après.
C'est Robert Pascal qui est le directeur de, en tout cas le responsable du département
Ouais.
composition. Et dans le cursus que vous avez fait au cours de ces 4 années, hein, au CNSM de Lyon, il est ménagé, envisagé justement de nombreuses rencontres au fur et à mesure des études, ou c'est peut-être à des moments particuliers de ce cursus qu'on vous permet d'avoir ce type de rencontre ou de travail.
Ouais, donc il y a les rencontres qui se passent forcément, disons, entre compositeurs, donc ça c'est très important, d'une même classe. Et puis il y a les rencontres qu'il faut aussi provoquer avec les instrumentistes, je crois, avec les interprètes. Et ça c'était, enfin, pour moi, pendant ces 4 ans, très riche, parce que j'ai rencontré plein de super musiciens, donc Willem Lachumia, là, qui a joué
Voilà
les
que nous
études qu'on
avons.
vient d'entendre.
Voilà la première étude, hein, Fantôme, l'étude numéro 1, et puis nous avons entendu le prélude pour Toy Piano.
C'est ça. Donc, par rapport à l'étude fantôme, donc c'était Willem qui m'a demandé une pièce pour ce concours d'Orléans qu'il a passé,
dont il était
qu'il a
le
gagné en
lauréat et qu'il a
plus.
gagné, oui. C'est la première fois d'ailleurs depuis de nombreuses années qu'un pianiste français
La
soit
première fois tout
lauréat.
court.
Hein,
Première
première
fois tout
fois.
court, ouais. Et donc c'était pas ma première collaboration avec lui. C'est vrai que c'est toujours plaisant de savoir à qui on a affaire à l'avance. Du coup, on n'écrit pas pareil. Et voilà, simplement, donc cette pièce, je peux peut-être un peu expliquer,
Oui, comment elle
grosso
est.
modo, un petit peu
Voilà.
l'idée des études fantômes. Par exemple, en jazz, il y a la notion de notes fantômes, pas qu'en jazz, mais quand même beaucoup. C'est-à-dire des notes qu'on n'entend pas vraiment, qui peuvent être un souffle, qui peuvent être un doigté à côté, et qui créent la richesse d'un phrasé. C'est-à-dire au lieu de ta-la-la-la, par exemple, et bon, il s'est passé un truc au milieu, on ne sait pas trop ce que c'est, bon, c'est une note fantôme. Donc là, mon idée, c'était de créer des études fantômes. Donc là, la première qu'on a écoutée, là, les notes fantômes, c'est le bois du
C'est ça.
piano, et à l'intérieur, on incruste des notes. Donc c'est presque plus les notes du piano qui sont les notes fantômes là, dans cette histoire, mais après, sur la deuxième étude, Et la troisième étude, je suis passé à d'autres types de nœuds fantômes, mais donc l'idée c'était d'utiliser du timbre pour enrichir un phrasé, essayer de créer un phrasé un peu hybride, un peu étrange. Mmh. Voilà.
Et là, c'est précisons que les toy pianos, ce sont des petits pianos en jouets, un petit peu.
Ouais, donc ça, c'est pour la deuxième pièce.
Pour la deuxième pièce, par exemple.
Voilà, donc ça, c'est aussi une des obsessions, enfin, pas des obsessions, mais c'est une des pratiques, en tout cas, qu'a Willem, donc avec ses toy pianos. Donc voilà, j'étais content de lui écrire une petite pièce. Il faut savoir que c'est... Il y a une contrainte énorme avec ces toy pianos, parce qu'il y a... Sur ceux pour lesquels j'écris, il y avait peut-être 15 notes qui sont des notes toutes diatoniques. Donc comment écrire quelque chose pour ce type d'instrument, c'est intéressant, parce que ça pose la question de la contrainte de manière assez forte, quoi.
En tout cas, vous avez été servi par un merveilleux pianiste et qui, je crois, maintenant a devant lui, en tout cas, si on peut évoquer ce terme de carrière, mais en tout cas, va s'ouvrir des univers intéressants. Et je crois qu'aussi, c'est passionnant de pouvoir, vous comme lui, émerger de jeunes artistes. Et puis, voilà, il y a déjà des accroches entre tous les deux. Peut-être que les choses vont continuer, justement, dans ces collaborations. Alors, peut-être découvrons encore une autre facette de votre écriture, avec une œuvre qui s'intitule Nostalgia, et qui, pour celle-ci, met en jeu le côté électroacoustique. C'est quelque chose que... Il y a une bande, en tout cas, il va y avoir une harpe, il y aura une bande. C'est quelque chose qui, pour vous, est important aussi dans votre démarche de composition, ou c'est plus anecdotique, entre guillemets, dans l'approche de ce type d'utilisation d'œuvres mixtes, ou c'est une tendance que vous avez envie de développer ou...
Je dirais que dans le travail électroacoustique, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on se pose... Il y a un certain nombre de questions qu'on ne se pose pas, et puis d'autres qu'on se pose directement. Donc, la question du son, du travail sur le son, c'est quelque chose qui est absolument évident. On ne peut pas partir de combinatoire, en tout cas c'est quelque chose qui est assez délicat au départ. Alors que dans l'écriture, avec l'interface de la partition, on est toujours obligé de se poser la question de comment on écrit telle chose, etc. Donc on est tout de suite dans le son, immergé dans la question de faire émerger une matière, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis là, donc particulièrement pour Nostalgia, c'était important pour moi qu'il y ait une bande. C'était une réaction à un film d'Andrei Tarkovsky, donc cette pièce. Donc un réalisateur que j'adore. Et qui a un espèce de temps très très particulier. Mmh. Et voilà, j'entendais... des sons, des choses un petit peu trafiquées. Donc j'ai utilisé des 78 tours, notamment, vraiment des sons très très vieux, qui donnent un peu cette idée de passage du temps. Voilà, donc ça m'a permis quand même, sans l'électroacoustique, j'aurais pas pu développer un certain nombre de notions, en tout cas, qui étaient importantes pour cette pièce.
Alors nous allons entendre Nostalgia, qui est interprété à la harpe par...
Seiko Fukushima. Thank you.
তোমারে ভালো বেসেছি আমি, তোমারে ভালো বেসেছি, চির সাথী হয়ে এসেছি, তোমারে ভালো বেসেছি।
On vient d'entendre, vous l'évoquiez au début, avant cette diffusion de cette œuvre, de Nostalgia, et on voit une fin, finalement, à partir de vieux enregistrements qui se couvrent, comme on va dire, pratiquement en cut.
Oui, oui, c'est une fin anti-musicale au possible, ça s'arrête...
Cet extrait, c'est quoi, ce que nous entendons,
c'est... Donc là, c'est un 78 tours qu'un ami, Mathieu Augier, m'a prêté, enfin, qui m'a fait écouter d'une musique indienne. Disons, c'est de la pop indienne, mais qui utilise aussi des musiciens traditionnels. Donc je ne sais pas du tout ce que raconte cette femme, mais pour moi c'était intéressant de bon, on entend la voix de cette femme pendant toute la pièce, et au moment où enfin on peut l'écouter, et qu'on peut enfin se poser, enfin en tout cas de rester un petit peu dans cette sonorité-là, hop, ça s'arrête, comme ça, et puis bon... Alors voilà, peut-être ça peut renvoyer à des questions sur pas mal de choses. Je laisse ça très ouvert.
En tout cas, Karl Negelen, j'imagine que les projets d'écriture ne manquent pas. Et quels sont-ils actuellement? Y a-t-il déjà des chantiers ouverts, des choses qui arrivent peut-être à aboutissement en ce moment?
Oui, ben là en ce moment je suis en train d'écrire une pièce qui va être jouée pour un festival de musique de chambre, donc en Allemagne, en Thuringe. Et puis dès la rentrée, je vais recommencer un travail avec les musiciens de l'Orchestre de Lyon et puis des classes d'école primaire qui s'appellent les Chantiers de la Création. Et puis voilà, encore un travail avec Willem Lachumia dans une formation de musique de chambre. Et aussi, avec un cœur amateur, donc des choses très très différentes, encore une fois.
On sent que les projets aussi autour des ensembles amateurs et des musiciens amateurs restent aussi présents. Et à un moment donné, vous souviez que pour un compositeur, il n'y a pas de but plus stimulant finalement que de voir ses propres projections sonores vivre par les mains, les oreilles d'apprentis musiciens, peut-être débarrasser des a priori qui empêchent l'épanouissement de la musique dans certains milieux plus professionnels.
Mmh. Oui, oui, mais c'est une autre manière d'envisager le sonore, parce qu'effectivement, on n'a pas assez... En fait, c'est intéressant parce que souvent on dit que, encore une fois, la musique contemporaine, il faut avoir une grande culture pour l'appréhender. Mmh. Moi, je soutiens le contraire, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, au contraire, se débarrasser de celle qu'on a pour pouvoir l'appréhender simplement. Donc, la question du beau renvoie à des canons précis chez certaines personnes qui n'ont écouté que de la musique classique. Mmh. Voilà, donc du coup, ces questions-là, elles reviennent souvent quand on travaille avec des musiciens amateurs. Mmh.
En tout cas, les projets vont vous conduire régulièrement. Vous évoquez un cœur amateur, les chantiers de la création, ce sont des enfants au milieu scolaire avec lesquels il y a un travail d'écriture. Ouais. Donc un calendrier un peu chargé de ce côté-là. Peut-être que nous allons pouvoir aussi découvrir encore une facette. Vous évoquiez dans l'œuvre Nostalgia tout à l'heure, peut-être la musique un petit peu variété ou pop indienne. On va plonger dans une œuvre qui s'intitule Kyoku. Et là, un petit peu la facture de cette œuvre, elle repose aussi sur des influences de cet ordre ou...
Alors là... Donc Kyoku, d'abord pour la petite histoire, donc ça voulait dire dans ma tête.
Oui, mélodie, qu'est-ce que ça veut dire,
effectivement. Mélodie en japonais.
D'accord.
Il s'avérait que c'était faux, puisque ça veut dire pièce, un petit peu comme n'importe quelle pièce de musique en tout cas.
D'accord.
Et comme je l'ai écrite pour une chanteuse qui s'appelle Mélodie Loulédian, voilà, c'était un petit peu une manière de lui faire un hommage sans qu'elle s'en rende forcément
bien
compte.
Bien sûr. Mmh.
Voilà. Et puis donc ses sonorités, évidemment, donc c'est Kyoku en japonais, ça renvoie. Je pense à une certaine idée de l'Asie. Mais alors, c'est très, très... en tout cas, je ne suis pas parti sur une idée précise par rapport à la musique japonaise ou asiatique.
Oui, c'est ça.
C'est plutôt des influences qui se révèlent à travers l'écriture, mais qui sont insidieuses. C'est-à-dire que je ne les ai pas...
Oui, ce n'était pas dans l'idée d'écrire une œuvre japonaise ou de...
Pas du tout. Ouais. J'en serais bien incapable.
Donc, voici Kyoku.
Tchau.
après cette œuvre qui s'intitule Kyoku, j'aurais envie de vous poser cette question encore, Carnet Gélène. Pour un jeune compositeur aujourd'hui, est-ce facile? C'est un métier facile aujourd'hui? C'est facile de vivre de ce métier?
Non, je ne pense pas que on puisse dire que ce soit facile. Ouais. Moi, j'ai un peu choisi de... un peu choisi en tout cas de ne pas enseigner, essayer de jouer la carte à fond.
Vraiment à fond, oui. Et ça, on ne peut que le saluer.
C'est possible, mais c'est vrai qu'on mange des pâtes, voilà, faut le savoir.
Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même relativement difficile. On le sait d'ailleurs pour vous rentrer, je dirais, dans ce parcours. D'autres l'ont entamé depuis de longues années. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même relativement pas simple. En tout cas, sont rares ceux qui vivent complètement de leur musique.
Je suis pas sûr que ça ait été simple à un
pour tout le monde.
L'histoire, enfin, ça fait aussi partie des prises de risque, en tout cas. Voilà, on est confronté à des situations qui sont pas toujours faciles, mais ça fait partie aussi de l'intérêt. C'est de prendre le risque de se dire bon ben voilà, on va essayer, puis on verra ce qui va se passer.
Ouais, c'est ça que je trouve intéressant. Une prise de risque
sur la possibilité que ça peut avoir d'exister, c'est tout simplement. Parce qu'en fait, si on commence à se poser ces questions-là, je crois qu'on a à décrire.
Du coup, ce qui est intéressant, prise de risque, exister, c'est une manière aussi, finalement, de peut-être, petit à petit, travailler à tout simplement essayer d'embraser la vie et tout ce qu'elle peut nous amener de manière assez forte et pleine d'envie, ne pas se contenter peut-être d'un conformisme des choses. Prendre ce risque, en tout cas. Eh bien, cet entretien avec Carnet Gélène prend fin. Je vous en remercie. Nous ne manquerons pas de suivre donc attentivement les suites de ce parcours et peut-être d'avoir le plaisir de vous avoir à nouveau à ce micro. Nous allons pouvoir nous quitter et je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien.